France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richet et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. L'Europe en quête de nouveaux partenaires face à l'hostilité des États-Unis. Bruxelles renforce ses liens avec des pays des Suds qui veulent que leurs intérêts aussi soient pris en compte. L'Europe sort le grand jeu. C'est notre nouvelle série cette semaine. On a parlé de l'Amérique latine, de l'Inde. Aujourd'hui, avec le continent africain, dépasser la logique de l'aide.
Il y a un peu plus d'un an, l'Union européenne a annoncé la stratégie dite « Global Gateway ». Lors du sommet que nous tenions à Bruxelles entre l'Union africaine et l'Union européenne. Cette stratégie formule une ambition inédite, celle de mobiliser 300 milliards d'euros d'investissements européens, publics et surtout privés, et de les déployer dans des pays partenaires.
Ces rencontres au plus haut niveau entre dirigeants africains et européens offrent des opportunités exceptionnelles, l'occasion de réfléchir à la destinée commune, aux intérêts partagés et à un avenir tracé ensemble.
Depuis notre dernier sommet en 2022, le contexte mondial s'est certes durci. Mais les relations entre l'Afrique et l'Europe n'ont fait que se renforcer. L'Europe est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Un tiers du commerce total de l'Afrique s'effectue avec elle. Et nous sommes le premier investisseur en Afrique.
L'Afrique et l'Europe unies dans leurs ambitions respectives, égales dans leur partenariat, veut-on croire de part et d'autre, dans ces deux discours prononcés en novembre dernier à Luanda, en Angola, où se tenait un sommet entre Union africaine et Union européenne. L'occasion de faire un point sur la stratégie dite Global Gateway, lancée 4 ans plus tôt. 300 milliards d'euros d'investissement, dont 150 sur le continent africain, dans les infrastructures, dans le numérique et l'énergie. S'en serait donc fini, ou presque, de l'intervention européenne sous forme d'aide publique au développement, ressemblant dans les mots à une sorte de charité dont le continent africain ne voulait plus, et dans les faits davantage à des prêts que ne pouvaient pas se permettre autres que quelques-uns. Le Global Gateway met l'accent sur les investissements et sur les dons, mais comme écrivait Balzac, il faut bien être sur ses gardes pour reconnaître la fausse monnaie que donne un ami, distinguer s'il s'agit d'onction de la charité ou de patelinage de l'intérêt personnel. À qui profitent ces investissements européens censés contrer les routes de la soie chinoise? Les pays d'Afrique ont-ils vraiment l'intention de se détourner de Pékin? Où est leur intérêt à eux? Et ces nouvelles stratégies censées rendre plus égalitaire le partenariat entre Europe et Afrique en sont-elles pour autant moins prédatrices, en particulier sur les ressources? Bonjour Martial Zebelinga.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes chercheur indépendant en économie et en sciences sociales. Nous sommes également depuis Bruxelles avec Amandine Sabourin. Bonjour.
Bonjour, Julie Lecomte.
Et bienvenue, vous êtes docteur en sciences politiques, analyste politique senior à ECDPM, pardon, c'est un think tank, un laboratoire d'idées européen spécialisé sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Vous êtes spécialiste de l'action extérieure de l'UE. Alors sans entrer tout de suite dans des considérations politiques, qu'est-ce qu'il y a d'abord derrière Global Gateway? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce jargon, ce slogan, cette stratégie? Est-ce que les investissements réalisés à partir de 2021-2022 dans le cadre de cette stratégie européenne se voit déjà dans le paysage, dans les paysages africains? Amandine Sabourin.
Oui, la stratégie, la réalisation, la mise en œuvre de la stratégie commence à se voir effectivement. Après, il faut bien comprendre qu'on ne part pas de rien. Il y a un certain nombre de projets qui préexistaient à la stratégie Global Gateway qui a donc été adopté en 2021 et qui portait déjà sur des projets d'infrastructure, etc. Mais cette mise en œuvre qui débute, qui commence tout petit peu à se voir, révèle aussi quelques limites, quelques défis, comme notamment l'adéquation entre la stratégie, les ambitions, les intérêts poursuivis et les outils disponibles, par exemple, mais aussi la transparence à la fois de la gouvernance de la stratégie, mais aussi la transparence des chiffres annoncés. Qu'est-ce qui a vraiment été réalisé? Vous mettez le point dès le début sur la question, en fait, qui anime un peu toute la sphère des partenariats internationaux de l'Union européenne. C'est-à-dire, est-ce que véritablement il y a autant d'investissements qui ont été réalisés depuis 4-5 ans? Alors, c'est vraiment la grande question.
Ces projets sont censés concerner, Martial Zebelinga, des routes, des ports, des réseaux électriques, des câbles internet, des parcs photovoltaïques, 150 milliards d'euros d'investissement sur le continent africain, sur l'enveloppe globale de 300 de ce Global Gateway. Est-ce que, à votre connaissance, comme le dit Amandine Sabourin, on a commencé par apposer le label Global Gateway à des projets qui existaient déjà, qui étaient déjà en discussion, qui allait se faire de toute façon. Un peu comme les nouvelles routes de la soie chinoise, d'ailleurs.
Alors, au risque de vous décevoir, moi, je pense que c'est un projet qui existe depuis quelques siècles.
En fait. Siècles, carrément.
Parce que, en fait, ce qui est aujourd'hui appelé partenariat, c'est une resémantisation, c'est un changement d'abord de lexique, parce que les humanitaires, les spécialistes de l'aide, la coopération, trouvaient que la terminologie utilisée n'était plus bonne, que ça faisait trop complexe du sauveur, etc. Donc on est passé de ce qu'on dit, la coopération avec de l'aide, coopération avec le donneur, et ceux qui recevaient, les bénéficiaires, on est passé à un jargon différent, le partenariat. Mais avant ça, en fait, on avait des logiques simples qui étaient des logiques de colonisation ou de mission civilisatrice. Et quand vous regardez les contenus de ces logiques-là, c'est-à-dire depuis les missions chrétiennes, du 18e siècle, etc., il y avait déjà la construction d'écoles, de routes, etc. Et donc, on est passé systématiquement, en fait, chaque fois que l'Europe est passée à une phase différente de son propre développement, de sa propre perception, elle a renommé, elle a resémantisé un peu, elle a changé de lexique, mais globalement, elle a garder ce qu'on appelle un peu une dépendance au sentier, c'est-à-dire la dépendance à sa propre démarche d'origine, ce qui fait que au fond il n'y aurait pas énormément de choses qui soient nouvelles, d'autant plus que même en Europe, et notre copanéliste venait juste de le dire, même en Europe, on dit on n'est pas sûr que ce soit vraiment des nouveaux projets, est-ce que c'est pas des anciens projets qui sont réhabillés, etc. Donc moi je pense que fondamentalement, malheureusement, le changement de paradigme, il n'est peut-être pas là où on l'imagine, en fait.
Alors vous êtes Amandine Sabourin désignée comme la copanéliste de cette émission. Non, mais c'est une très bonne façon de parler aussi de nos invités. Pardon. Est-ce que non, c'était juste pour parce que j'ai pas tout de suite saisi de quoi vous parliez. En effet, Amandine Sabourin, est-ce que néanmoins dans cette stratégie de Global Gateway, et je suis vraiment désolée de devoir répéter cette ancienne à tout bout de champ, mais on essaye de parler de cette stratégie qui est quand même pas très concrète. Est-ce qu'il y avait quand même dans les faits une volonté de dire au-delà des mots, du choix des mots, on va essayer de changer un petit peu notre façon de faire et en parlant d'investir et plus d'aide au développement, donc investissement privé, donc en dépolitisant l'aide d'une certaine façon, eh bien ça va tout changer.
Oui, je pense que vous l'avez super bien introduit au début. La stratégie Global Gateway répond vraiment à différents facteurs. D'abord, il y a vraiment une demande africaine, comme vous l'avez noté, de se concentrer sur d'autres priorités, sur les pays d'Afrique et aussi l'organisation régionale africaine, aussi l'Union africaine, a acquis plus de agency, comme on dit en anglais, en bon français.
Comment on dirait en français? Ils sont plus acteurs d'eux-mêmes.
Oui, c'est ça. Ils s'affirment sur la scène internationale, ils s'affirment beaucoup sur la scène internationale et vis-à-vis de leur partenariat. Donc ça, c'est déjà un point important, c'est la demande africaine à évoluer. Après, il y a un deuxième aspect, c'est que le contexte géopolitique a beaucoup changé. Donc initialement, dans les années 2020-2021, la préoccupation majeure, c'était effectivement l'initiative des nouvelles routes de la soie de la Chine, mais il y a énormément de nouveaux acteurs de la coopération et des partenariats avec les pays africains. Donc l'Union européenne a besoin de se trouver sa place et de retrouver sa place. Et depuis, il y a effectivement le désengagement des États-Unis qui a invité l'Union européenne à renforcer ou à réinventer ces partenariats. Et le troisième élément, je vais finir sur ça, troisième élément qui est un élément plus interne, mais qui est aussi hyper important à prendre en compte, c'est le besoin de compétitivité, d'accroître la compétitivité de l'Union européenne. Les budgets publics sont plus pauvres, donc ils laissent moins de place à la coopération au développement. Et en même temps, on a besoin de promouvoir la compétitivité des entreprises européennes, etc., la promotion des intérêts européens. Et c'est accru. C'est dans ce contexte vraiment que la stratégie Global Gateway a émergé et s'est renforcée ces dernières années.
Martial Zebelinga, est-ce qu'à chaque fois ces projets sont pensés comme des contre-projets à ce qui a déjà été fait par la Chine, pour le dire grossièrement? On prend une carte, on se dit tiens, la Chine a financé une construction de chemin de fer ici et s'en est octroyé la concession, alors on va faire la même, mais la concession sera européenne pour reprendre la main. Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Je pense que s'il y avait un élément fondamental qui changeait, ce serait ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une stratégie globale occidentale en l'occurrence, là, qui consiste à dire il ne faudrait pas que la Chine ait trop accès aux matières premières qui lui permettent de prendre de l'avance, notamment dans les secteurs du numérique, de l'économie verte, etc. Et donc, il va falloir aller vers les ressources auxquelles elle a accès. Bon, ça c'est un élément qui n'est pas contredit par la Commission européenne, etc. C'est très, très clair.
C'est le cœur de
vraiment,
la stratégie.
Pour moi, c'est le cœur. C'est ça qui change véritablement, parce que la demande africaine, dont parle Amandine Sabourin, je ne la désignerai plus comme copanéliste.
C'est très joli, moi, je trouve.
Ok. Mais... Alors, changement de la demande africaine, elle est peut-être plus vocale qu'autre chose. Mais si on regarde le fond de la demande africaine, c'est le même depuis la création de l'Union africaine. En 1963, les premiers penseurs de cette époque-là, en tout cas, les chers Anta Diop, etc., ils ont dit l'Afrique a besoin de l'industrialisation. Et aujourd'hui, on parle en des termes différents, on parle des chaînes nouvelles, chaîne de valeur. C'est ça la demande structurelle et infrastructurelle des économies et des sociétés africaines. Et tant qu'on ne touche pas à cet aspect-là, tous les projets dits de coopération, de partenariat, etc., seront peu ou prou des projets extractivistes. C'est pour ça que ce changement de demande, je suis un peu plus limite. Par contre, la question géopolitique, elle est vraiment essentielle. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que les États-Unis et l'Europe perçoivent la Chine avec... on est presque, permettez-moi le colorisme, on est revenu une forme de péril jaune, en fait. On dit, bon, la Chine, elle prend tout, etc. Donc, il faut lui couper l'accès aux matières premières. C'est très explicite, hein. Et beaucoup de conflits, malheureusement, dans le monde, risquent de se structurer autour de ça. La RDC-Congo, on voit bien qu'il y a une bataille entre la partie des minerais qui irait du côté de la Chine et l'autre qui irait sur la façade de l'Atlantique vers l'Occident. Je crois que c'est
ça le
changement.
Via le corridor de Lobito, dont il sera question dans notre focus tout à l'heure. Est-ce que l'Union européenne, très prosaïquement, Amandine Sabourin, a les moyens de concurrencer la Chine?
C'est un peu l'élément sur lequel, enfin, le dernier forum de Global Gateway en octobre est revenu beaucoup. C'est quels sont les outils à la disposition de l'Union européenne pour justement avancer ses pions sur ce terrain-là, parce que jusqu'à présent, l'Union européenne avait sa valeur ajoutée sur les questions des valeurs, de la démocratie, des droits de l'homme, sur le développement humain, etc. Donc elle avait mis en place tous les outils, les instruments de coopération qui visaient à mettre en œuvre ce type d'échange. Mais effectivement, là, on est sur d'autres terrains, parce que à travers la stratégie de Global Gateway, ce qu'on veut, c'est à la fois ce qui est promu, c'est plus de finance du développement. Donc la finance du développement, c'est des outils comme les prêts, les garanties bancaires, des outils aussi qui... et voilà, on est donc sur cet aspect-là, mais on est aussi sur la promotion, entre guillemets, ou la mobilisation, en tout cas, des ressources privées, des ressources du secteur privé. Et là, sur les deux aspects, il y a un petit peu des... Sur la finance de développement, l'Union européenne est équipée, elle a les outils nécessaires, etc., mais sur la mobilisation du secteur privé, c'est plus compliqué, parce que habituellement, ce sont plutôt les États membres de l'Union européenne qui font la promotion de leur propre secteur privé. Donc là, elle a pâti un petit peu, elle a manqué d'outils, etc. Et c'est ce qui est en train d'être travaillé. Enfin, c'est des sujets sur lesquels l'Union européenne, la Commission est en train de travailler, notamment sur le. Des mécanismes de coordination des agences de crédit à l'export pour encourager les entreprises qui le souhaitent, etc., à aller plus à investir dans les pays africains.
C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de mobiliser des acteurs privés qui ne sont pas là pour répondre à une stratégie européenne. D'ailleurs, ils disent, les acteurs privés, alors on en parle comme ça de façon un petit peu floue et vaporeuse, mais beaucoup disent qu'ils n'ont même pas d'interlocuteurs à Bruxelles, donc que de toute façon c'est un vœu pieux que de vouloir en fait dépolitiser les investissements. Encore une fois, Martial Zeilbellinga, c'est ça l'idée, c'est de se départir d'une posture assez moralisatrice de l'Europe, comme ça lui a été reproché quand elle conditionnait ses prêts à des logiques politiques, de maintien de la démocratie, pour le dire vite, avec tout ce que ce discours peut avoir d'hypocrite, mais à une logique strictement économique, comme si ça suffisait à décoloniser l'aide, en quelque sorte.
Alors, sur cette question, c'est à la fois complexe, et à mon avis, il y a quand même une trame qui apparaît. Je ne suis vraiment pas convaincu que l'Union européenne ou que les États-Unis aient un savoir-faire pour développer l'Afrique, comme on dit, ou pour développer n'importe quelle autre société, parce que ce n'est pas la vocation d'un espace géoéconomique d'en développer un autre, objectivement. Par ailleurs, c'est un espace, donc l'Union européenne, les États-Unis ont effectivement des intérêts en Afrique qu'ils ont depuis très longtemps circonscrits. C'est-à-dire que quand on a eu le boom des investissements directs dans les années 90, 2000, etc., ce qu'on a pu observer, c'est que l'essentiel des investissements en Afrique était extractif. Donc, dans la cartographie mentale de l'investisseur européen, pour aller plus vite, l'Afrique, c'est quand même d'abord le lieu des matières premières, de l'extraction, etc. Et ce n'est pas, ce cheminement intellectuel ne va pas changer du jour au lendemain, parce que la situation de l'Afrique elle-même n'a pas changé de ce point de vue. Ça reste la région du monde la moins transformée du point de vue de ses structures économiques et du point de vue industriel. Et donc, l'Europe va vers l'Afrique pour cette raison-là. Donc, par contre, la question des valeurs était, il y a un changement, à mon avis, important, c'est-à-dire qu'elle était effectivement vue comme un avantage comparatif important de l'Europe et de l'Occident pendant très longtemps. Mais depuis plusieurs décennies, en fait, l'Europe et l'Occident ont perdu cet avantage comparatif parce que, d'abord, il y a eu beaucoup d'ingérences, il y a toujours des ingérences qui sont condamnées, et puis parce que l'activité même des États-Unis, de l'Europe, l'Occident, comme on dit, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, etc., n'a pas permis aux Africains de se faire une idée précise sur le fait que l'Occident voulait réellement des démocraties dans le monde. Et du coup, des options différentes apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie popularité, ça peut paraître surprenant vu d'Europe ou d'Occident, mais il y a une vraie popularité des États du Sahel qui ont dit, bon voilà, nous on veut résoudre les problèmes de sécurité.
Les juntes militaires.
Et voilà, et on va donc arrêter le pluralisme politique, etc. On va le suspendre aux besoins, parce qu'on a des besoins plus importants, les besoins de sécurité et de transformation, et ils sont effectivement engagés dans une logique de transformation industrielle, économique, etc. Et
même paradoxalement, si pour l'instant, on a du mal à savoir ce que l'argent qui est gagné, quand la junte au Mali, par exemple, tord le bras des grandes multinationales d'extraction minière en disant on doit plus en profiter, on ne sait pas ensuite comment est utilisé l'argent, s'il bénéficie aux populations notamment.
Elles sont là depuis 4 ans,
c'est trop tôt,
5 ans, et on a... C'est pour ça, justement, qu'il y a ces problèmes-là. On a quand même une expérience de près d'un demi-siècle dans certains pays avec des régimes civils qui, d'une part, ont contribué à l'extractivisme, avec aussi les intérêts de certaines élites, et qui, précisément, ont contribué à dévaloriser, justement, ce type, la relation Afrique-Europe, sous les bases, en fait, qui sont des bases, disons, qui n'ont pas été des bases de rupture, en fait. C'est-à-dire que on peut pas passer d'une période, disons, coloniale à une période d'indépendance et au développement sans qu'à un moment donné, il y ait une forme de rupture de paradigme. C'est pas possible.
Alors ça, c'est encore un autre sujet, de savoir si ces pays ne pouvaient être qu'à un moment dirigés par des militaires. Mais par ailleurs, le Mali l'a été beaucoup depuis l'indépendance. C'est pas la première fois que des militaires sont au pouvoir et n'ont pas réussi jusqu'à présent à régler les questions de sécurité. Voilà. Mais c'est vrai
donc
que ça nous emmène loin.
Le problème reste posé. C'est pour dire que la question des valeurs aujourd'hui ne se pose plus dans les mêmes termes. Et plus généralement, les Africains en sont à dire que il y a probablement pour eux un modèle à inventer. Si vous prenez les pays qui se sont développés le plus franchement aujourd'hui, si vous prenez la Chine, si vous prenez le Vietnam par exemple, assez étonnamment, ce sont des pays où vous avez une planification publique, qui sont des régimes qui se présente comme étant socialiste de marché, etc., avec un mix, on va dire, entre ce qu'on appelle en Occident les libertés publiques et que eux ils appellent les droits ou les devoirs, qui n'est pas le même qu'en Occident. Et le fait est que ce sont ces régions du monde qui ont réduit la pauvreté, qui d'un point de vue économique et même social, ont fait le plus de progrès depuis 40 ans. C'est dans ces pays-là qu'on a les meilleurs résultats, par exemple, à l'éducation. Dans l'éducation, si vous prenez les grands chiffres, PISA et consorts, c'est les pays asiatiques qui sont souvent dirigistes.
Éducation, d'ailleurs ce terme n'est plus, je crois, Amandine Sabourin, employé dans les programmes européens vis-à-vis des pays africains quand il s'agit d'aide à l'éducation. Justement, on ne parle plus d'éducation, mais de compétences, c'est ça. En tout cas, comment vous vouliez déjà réagir à ce que disait Martial Zebelinga et puis peut-être savoir comment cette nouvelle stratégie en Europe a changé, alors ça peut paraître artificiel, mais aussi les discours des Européens vis-à-vis des pays d'Afrique quand il s'agit d'aide au développement.
Oui, effectivement, il y a un changement de discours profond qui, après avoir comment il est suivi des faits, ça c'est autre chose. Mais effectivement, il y a un changement d'histoire raconté, un changement de narratif, de narration. Et du coup, effectivement, l'éducation est toujours une des priorités, un des cinq piliers de la stratégie Global Gateway en tant que telle. Mais effectivement, on voit dans les discours que on se focalise peut-être moins sur l'éducation primaire, l'éducation secondaire, mais plus sur développer les compétences des travailleurs autour des investissements, des secteurs dans lesquels on investit, etc. Donc effectivement, il y a un petit changement de termes, de terminologie, etc. Mais je voulais revenir effectivement sur ce que disait Martial sur la question de l'ingérence sur les valeurs, etc. Effectivement, ça fait partie des griefs des pays africains envers l'Union européenne un petit peu. Et les études qu'on a faites ont bien montré que tout ce qu'on appelle les conditionnalités n'ont pas... Donc ça veut dire qu'on conditionnait l'aide à des réformes, des avancées sur les questions des valeurs de la démocratie, de la gouvernance, de l'état de droit, des droits de l'homme, etc. Et on a bien montré que ça ne marche pas. Enfin, que ça ne produit pas de changement sur le long terme, etc. Et on est vraiment dans une impasse où, en fait, on ne sait pas trop comment amener la question des valeurs, que les partenaires africains en général ne souhaitent pas adresser maintenant et souhaitent adresser principalement des questions liées aux investissements et dans les infrastructures. Mais en même temps, l'interlocuteur unique, pratiquement, ou principal des institutions européennes et même des États membres, c'est principalement le gouvernement. Donc, les valeurs, pour moi, enfin dans ma définition des valeurs, c'est aussi, ça se rapporte aussi à la société civile, au fait que au-delà du gouvernement, qu'on a un pluralisme dans la société, etc. Et cette question-là, ça fait partie aussi du changement de narration du côté de l'Union européenne. Mais cette société civile, elle ne fait pas partie des interlocuteurs de l'Union européenne, des interlocuteurs en premier lieu, on va dire, et alors que ce sont eux aussi qui contribuent qui bénéficient, qui sont censés être les bénéficiaires finaux de tous ces investissements et de toute cette aide apportée.
Madame la présidente von der Leyen, vous avez dit que 150 entreprises étaient représentées ici. Vous n'aviez pas besoin de me le dire. Dès que je suis entré, j'ai senti l'odeur de l'argent. Quand j'ai vu le président de la Banque mondiale, j'ai pu toucher l'argent. Et quand je vous ai salué, vous et le président Lorenzo, j'ai pu toucher le pouvoir dans vos mains, vous deux qui êtes les dirigeants de l'UE et de l'Afrique. Ce n'est donc pas seulement un privilège d'être ici, c'est une joie absolue d'être aux côtés d'une pléiade de personnes qui ont une grande influence sur les affaires du monde et sur mon continent bien-aimé, l'Afrique.
Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, lors du forum Global Gateway en octobre dernier avec l'Union africaine. Martial Zebelinga, ça vous a fait sourire, cette façon de dire, en fait, on va parler franchement, ce qui nous intéresse, c'est l'argent que vous avez, maintenant, il faut y aller.
Je pense que Monsieur Ramaphosa a beaucoup de ressources diplomatiques. On a pu le voir à plusieurs occasions, même quand il était aux États-Unis. Je ne suis pas convaincu qu'il faille le prendre au pied de la lettre. Je vais donner un exemple. L'Afrique du Sud est quand même un des pays qui fait partie des BRICS et qui est très actif dans la question des BRICS, c'est-à-dire qui est très actif dans la question d'un monde multipolaire, etc., etc. On sait que l'Afrique du Sud est aussi assez proche de la Chine, en tout cas dans les opinions, les baromètres, etc. Ça reste un des pays qui se sent très proche de la Chine et très proche, en gros, de ce qu'on appelle le Sud global. Par ailleurs, l'Afrique du Sud est très bien placée pour savoir que les flux d'aide qui sont annoncés, en général, ça va être des prêts, hein, des prêts qui sont des prêts remboursables. Hein, l'essentiel de ce qu'on appelle aide au développement, ce sont des prêts remboursables et qui sont d'ailleurs des prêts, certes, concessionnels, mais qui sont garantis par les États occidentaux. Donc, c'est des bons investissements pour les privés, pour les banques, etc. Et il le sait très bien.
J'essaie de comprendre parce qu'il me semblait que justement cette nouvelle stratégie européenne, c'était vraiment de privilégier les investissements privés, mais l'aide au développement persiste, reste, elle est peut-être moindre qu'avant, mais elle reste sous la forme de ses prêts, alors
De toute façon, l'aide, ce qu'on appelle l'aide, maintenant on change les termes, l'aide, coopération, ce qu'on veut, ou les partenariats, au fond, ça reste des prêts. C'est aussi simple que ça. Quand ça s'adresse aux États, ça reste des prêts. Ou alors, ce sont des investissements privés. Concrètement, c'est ça et on ne pourra pas inventer autre chose. Il faut quand même pas oublier que la situation des pays européens aujourd'hui, leurs finances publiques, aujourd'hui, on a quand même un endettement important en Europe, un endettement important aux États-Unis, encore plus important. Et celui qui finance tout ce monde-là, c'est quand même la Chine. C'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui le premier bailleur de fonds. Il est créancier des États-Unis, créancier de l'Union européenne, de l'Europe généralement, et évidemment créancier des pays africains. Donc, au fond, je pense qu'on a beaucoup un discours qui est très, très enrobé autour des priorités européennes qui sont à la fois la question de l'approvisionnement, ce qu'ils appellent aujourd'hui dérisquer leur approvisionnement en matières premières. En gros, ne pas trop dépendre de la Chine pour les minerais dits stratégiques. Il y a la question de la sécurité, il y a la question des migrations, contrôler les flux migratoires africains, etc. Et puis, j'ai l'impression que c'est un petit peu cosmétique, il y a la question dite de la lutte contre la pauvreté. Mais bon, vous savez, vous ne luttez pas contre la pauvreté avec elle en face de vous et vous avec des armes. Lutter contre la pauvreté, c'est investir dans l'éducation, c'est transformer les chaînes de valeur, c'est des choses qui prennent du temps. Donc je crois que le fond de la question, et c'est bien que ce soit
mais
plus
si l'Europe
honnête.
Si l'Europe investit dans l'éducation, on l'accuse de s'immiscer, de faire ce qui ne la regarde pas et d'être moralisatrice.
Ah mais je suis d'accord avec vous pour dire une chose, c'est que le fond de l'histoire, à mon sens, c'est que ce sont des solutions africaines endogènes qui emporteront la solution. C'est très clair. Et ces solutions endogènes, il y a des propositions qui sont faites au niveau de l'Union africaine, de la BAD, etc. C'est mobiliser les ressources internes, limiter les flux financiers illicites parce qu'il y en a trop, mobiliser les flux des diasporas africaines. Il faut savoir que les flux, les remittances, comme ils appellent ça, les transferts de fonds, voilà. Les transferts de fonds des diasporas africaines sont aujourd'hui plus importants que l'aide au développement, entre guillemets, ou même que les investissements directs étrangers. Et donc, ces ressources-là doivent pouvoir être réutilisées, réinvesties dans des projets africains. Il y a la question de la fiscalité africaine qui est posée, puisqu'on a beaucoup d'activités informelles. Et donc, plus elles sont informelles, moins elles sont taxées. Et puis, fondamentalement, il y a la question de la transformation, de la valeur ajoutée. Si l'Afrique continue d'envoyer à l'extérieur des billes de bois entières au lieu de les transformer minimalement, eh bien, il est certain qu'on a moins de valeur ajoutée et qu'on a donc moins de rentrée fiscale. Donc les solutions, elles sont d'abord africaines endogènes.
Amandine Sabourin.
Oui, merci. Je voulais juste peut-être clarifier un point sur la coopération au développement et la nouvelle approche, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dons dans la coopération, beaucoup de prêts dans la coopération au développement, l'aide au développement, mais elle était constitué aussi de beaucoup de dons qui portaient sur des domaines dits traditionnels comme la gouvernance, le développement humain, l'éducation, la santé, etc. Et la grande différence maintenant, c'est justement de donner un petit peu un coup de pouce à tout ce qui est finance du développement et donc aux prêts et à la mobilisation des investissements privés. Les prêts, je reviens là-dessus parce que vous parliez de l'Afrique du Sud, mais sur les 54 pays africains, il y a une diversité de situations économiques qui est flagrante, sur laquelle on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais,
allons-y.
Oui, allons-y. Mais une première question qui se pose, c'est comment faire en sorte que les prêts qui sont proposés ou même les investissements se passent dans des conditions qui soient acceptables pour les pays qui les reçoivent. Parce que les prêts ne sont pas accessible à toutes les économies, très clairement, tous les pays africains n'ont pas les ressources financières nécessaires ou la stabilité financière nécessaire pour accueillir des prêts, par exemple. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense qu'une des questions maintenant, c'est de combiner l'aide, les investissements sur les infrastructures avec des mesures qu'on qualifie de soft en anglais, de plus douces, c'est-à-dire toutes ces questions dites plus traditionnelles comme la gouvernance, l'éducation, la santé, etc. Parce que de façon très concrète, il y a beaucoup de pays fragiles, les pays les moins avancés. En Afrique, il y en a encore un certain nombre, même si la croissance cette année a bien repris, et l'année dernière déjà aussi, dans beaucoup de pays, et c'est très encourageant. Mais pour prendre un exemple très concret, comment peut-on encourager les entreprises à investir dans des pays, ou alors, même si on se place du point de vue africain, et je souscris à ce que disait Martial à l'instant, c'est-à-dire il faut faire en sorte que l'économie africaine elle-même se développe, et donc le tissu économique et social se développe, etc. Et ça, c'est important. Mais comment cela peut se passer si on n'a pas confiance en l'État, en une structure de justice fiable? On ne peut pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si l'État de droit n'est pas renforcé, c'est compliqué d'investir ou de développer son business et de contribuer au développement. Même pour les transferts de fonds qui viennent des migrants, c'est difficile de la diaspora, pardon. Mmh. C'est difficile d'envisager de les réinvestir si on n'est pas, on n'a pas des structures de gouvernance qui soient un petit peu fiables, en fait, dans le pays dans lequel on souhaite investir.
Or, Marcel Zebelinga, c'est fondamental, en effet, de savoir comment aussi sera utilisé alors ce partenariat ou cette coopération, cet argent, en tout cas, par les États qui le recevront, d'une certaine façon, même si, encore une fois, on essaye vraiment de changer de langage, de ne plus dire ceux qui donnent, ceux qui reçoivent. Bon. Mais une fois ceci posé, la façon dont les élites africaines aussi, pour le dire de façon très simple, ont perpétué des pratiques problématiques. Comment ça se change ?
Bon, c'est bien. Je pense que c'est extrêmement pertinent de mettre le doigt dessus, de mettre le doigt sur la qualité des institutions, sur les représentations des élites, etc. C'est absolument essentiel. Je précise juste une chose. Dans mon propos, et je suis d'accord avec l'essentiel de ce que dit Amandine, j'insiste sur le fait que les solutions sont endogènes et locales. Ça veut dire que même sur la question des valeurs, la question de la qualité des institutions, il vaudrait mieux que ce soit des transformations internes, des dialectiques internes, qui arrive à produire quelque chose de nouveau. Mais il est certain que ce que nous avons jusqu'à présent, d'abord, il faut bien le dire, le nouveau partenariat, ce n'est pas une demande africaine. Ça je pense qu'il faut que ce soit assez clair. Vous avez
l'Union africaine ne l'a pas formulé.
Non. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande formulée par l'Union africaine, c'est un projet européen. C'est un projet européen global, qui voudrait assurer, comme vous avez dit, sa sécurité, prendre en compte le fait que les États-Unis sont finalement plus États-Unis qu'Occident, et prendre en compte le fait l'importance de la Chine, prendre en compte l'importance de la multipolarisation et reconstruire son propre projet global. Ça, c'est le projet européen. Et au sein de ce projet, il y a une part africaine, c'est-à-dire comment. Alors, il faudrait donc pour les Africains éviter qu'ils soient l'instrument d'une reformulation des stratégies européennes, puisqu'il y a un discours à dire l'Europe s'affaiblit, s'affaisse, il faudrait retrouver de l'influence, etc. Et si le projet reste un projet à l'initiative de l'Europe, ou un partenariat à l'initiative de l'Europe, eh bien, dans ce paradigme, en tout cas, l'Afrique resterait, quoi qu'on fasse, hein, l'instrument d'un projet autre. Or, la logique qui devrait prendre le pas, en tout cas du point de vue des Africains, c'est un projet endogène et un projet dans lequel les Africains trouvent une solution à la qualité de leurs élites. Parce que chaque fois que, disons, la solution a été plus ou moins externe, eh bien, on fabrique des élites qui sont redevables d'autres espaces, d'autres géopolitiques, d'autres groupes d'influence. Et à l'arrivée, le résultat pour les populations n'est pas probant. Donc, je pense qu'il faudra aussi, par contre, que l'Europe et ces élites-là, en tout cas européennes et africaines, qui, à mon avis, coproduisent ce qu'on appelle aujourd'hui le non-développement ou le sous-développement, etc., eh bien, qu'il y ait plus de vérité dans cette relation. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle Relooted, je crois. Oui, Relooted, c'est un jeu vidéo sud-africain justement qui parle d'un groupe de cambrioleurs qui viennent dans des musées occidentaux voler des objets africains qui auraient dû être restitués et qui sont pas restitués. Donc pourquoi je parle de cette question-là ? C'est vrai que c'est dans l'actualité, mais c'est pour vous dire que ce type de questions qui sont pour les Africains extrêmement importantes, ne serait-ce que symboliquement et qui peuvent l'être économiquement, si elles ne sont pas abordées dans des espaces comme cela, des espaces où on parle de partenariat, de coopération, on reste dans une forme d'hypocrisie.
Mais elles sont abordées, il y a plein de choses qui sont faites, on a consacré une série, c'est jamais assez, mais en tout cas c'est discuté. Oui. Non, c'est pas discuté.
Non,
pas
c'est discuté, mais ce que je veux
mais
dire,
pas
c'est
dans
que
ces instances-là.
Ce que je voudrais dire, oui, c'est que vous pouvez pas passer l'avant-colonisation, la colonisation, les indépendances, l'extractivisme, et dire bon, maintenant on passe à autre chose, on passe au partenariat, sans avoir résolu l'ensemble des questions qui posent problème. Quand vous allez dans tous les pays aujourd'hui, vous voyez que ces questions de souveraineté, d'accès aux ressources, de maîtriser ses propres ressources, elles sont essentielles. Si vous voulez mettre au-dessus ou par-dessus un projet d'investissement sur l'accès aux corridors, etc., ben c'est forcément mal perçu. Et je suis d'accord pour dire que la configuration élitaire, les élites que nous avons, en tout cas qui décident, pour le moment, n'ont pas la solution. Et c'est aux sociétés africaines de produire la qualité nécessaire d'élites qui soient des élites transformationnelles. Mais cette question d'élites transformationnelles se pose aussi, à mon sens, en Europe.
Et donc, c'est dans les États africains et les sociétés africaines que se trouve une forme de réponse et de solution, Martial Zebelinga. Donc, hors Union européenne et hors Chine, qui par ailleurs, elle aussi, a une logique prédatrice. Donc, on ne s'en sort jamais de cette histoire. Et après avoir attaqué le Global Gateway en disant que c'était un projet néocolonial, Pékin est aujourd'hui beaucoup moins critique et pense même que des coopérations sont possibles. Peut-être pour conclure cette première partie, Amandine Sabourin, est-ce que depuis qu'il a été lancé en 2021, ce projet de Global Gateway a été ajusté, amendé pour mieux prendre en compte les intérêts des uns et des autres et pas juste des uns, si vous voyez ce que je veux dire?
Je vois ce que vous voulez dire, oui. Oui, non, et effectivement, même ce que vous disiez sur la Chine, c'est effectivement très vrai. C'est-à-dire que même la Chine, après avoir promu les investissements pendant des années, n'a plus autant de ressources maintenant et fait maintenant ce que faisait l'Union européenne avant, c'est-à-dire du soft power, donc plus sur des thématiques considérées comme traditionnelles. Mais pour revenir à votre question, effectivement, il y a eu pas mal de... Pardon.
Non, je vous en prie, on vous écoute.
De différence, ça a été perçu différemment. Il y a beaucoup de travail fait au niveau pays, en fait. Enfin, c'est difficile d'avoir une approche vraiment continentale, même s'il y a la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine. Mais au niveau pays, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour préciser l'offre en fonction du pays. Et puis, le Global Gateway est compris aussi différemment selon les pays. Donc, vous n'allez pas parler de la même façon, ni des mêmes projets, ni des mêmes programmes, etc., avec la Namibie, qui, par exemple, parle de potentiel de co-création avec l'Union européenne quand il s'agit d'investissement, etc. Donc, il y a plus de... de potentiel de renouveler vraiment le partenariat, pardon, qu'avec, par exemple, un pays comme le Cameroun, sur lequel aussi nous avons travaillé, et pour lequel le changement a été très mal communiqué, très mal reçu aussi, parce que les clés de travail, les outils n'étaient pas disponibles pour en discuter correctement, ni d'égal à égal, pour le coup. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens. On a mis un petit peu la charrue avant les bœufs en annonçant la stratégie en 2021 sans vraiment prévoir les outils, et le travail est en train de se faire, et ça prend du temps, comme tout changement d'approche, voire de paradigme. C'est en cours.
Fela Kuti, le chanteur nigérian qui dans Buy Africa en 71 exhortait les Africains à une forme de souveraineté économique. Si on n'achète pas nos propres choses, nous ne gagnerons pas d'argent. À qui profitent les investissements européens réalisés sur le continent africain par l'Union européenne dans le cadre de sa nouvelle stratégie qui consiste à rééquilibrer les relations entre les deux partenaires? Parmi les projets phares de cette coopération entre Afrique et Union européenne, il y a ce qu'on appelle le corridor de Lobito qui relie dans le sud du continent la République démocratique du Congo à l'est et l'Angola à l'ouest, pas pour faciliter nécessairement les voyages des habitants, mais plutôt ceux des minerais.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La conception de ce corridor de développement, qui constitue un projet d'envergure, permettra de renforcer les infrastructures. Il a été souligné aujourd'hui que ce corridor de développement, ouvert à la fois sur le monde et au niveau local, couvrira pratiquement tous les types de commerce imaginables, de l'agriculture à la logistique, en passant par le fer.
Un corridor, pour ne pas dire un train, tout simplement le corridor de Lobito est censé permettre l'acheminement des minerais, en particulier le cuivre et le cobalt, depuis les mines de la RDC jusqu'à un port angolais sur la côte atlantique en Angola, donc en passant par la Zambie qui se situe entre les deux. Le projet a reçu le soutien de l'Union européenne dans le cadre du Global Gateway, mais aussi des États-Unis. Qui en bénéficiera vraiment? Bonjour Hélène Blaskiewicz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie et chercheuse post-doctorante au laboratoire Prodige CNRS. Vous avez publié un ouvrage titré « Toujours plus vite, logistique et capitalisme dans l'Afrique minière, en Zambie et en République démocratique du Congo » aux éditions Le Manuscrit il y a 2 ans. D'abord, ce corridor de Lobito, pour bien comprendre, est-ce que c'est un label ou c'est un chemin de fer ?
Alors c'est avant tout un chemin de fer. D'ailleurs, donc ce corridor, il reprend exactement le tracé d'un chemin de fer existant qui s'appelait le chemin de fer de Benguela. Donc là, on est absolument dans la continuité coloniale que vos invités précédents soulignaient. Alors, ce chemin de fer de Benguela, il a relié en fait la Copper Belt zambienne et congolaise à l'océan Atlantique à partir de 1931, et ce jusqu'en 1976. Et donc, il a été créé avant tout pour l'exportation des minerais et aussi des passagers dans une moindre mesure, puisqu'à l'origine, ce chemin de fer était dirigé par des capitaux britanniques et belges.
Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va entrer dans certains détails. En tout cas, des trains déchargent déjà des cargaisons de minerais dans le port de Lobito en Angola, mais qui ne viennent pas donc de ces 1700 km de voies ferrées, lesquelles ont été endommagées pendant la guerre d'indépendance, puis la guerre civile qui a duré un quart de siècle, de 75 à 2001. Alors, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui quand les Européens et les États-Unis disent qu'ils vont, financent ce corridor? À quoi est destiné leur argent? Est-ce qu'il s'agit de reconstituer une ligne de chemin de fer ex nihilo ou vraiment de la réhabilité?
Alors c'est plutôt une réhabilitation parce qu'en effet, après la guerre civile angolaise qui s'est terminée en 2001, on a eu un prêt des entreprises chinoises, de la Chine, hein, pour réhabiliter ce chemin de fer. Donc ce qui a été fait, ça a été terminé en 2015 dans la ville de Luao qui est à 15 km à peu près de la frontière congolaise. Donc les investissements européens, ils servent avant tout à doter ce chemin de fer de l'équipement nécessaire pour recommencer les exportations de minerais vers le port de Lobito.
Et donc le port de Lobito, donc vers l'Europe ou les États-Unis, ce n'est pas comme les ports qui sont de l'autre côté, sur l'autre façade maritime du continent africain et qui desservent plutôt l'Asie et donc en particulier la Chine. Le contrat de concession sur ce corridor, il a été accordé en 2022 à un groupe d'entreprises européennes, mené d'ailleurs par un négociant suisse impliqué, y compris en Angola, dans des scandales de corruption. Est-ce que c'était une évidence? Est-ce qu'il y avait de la concurrence chinoise? Pourquoi est-ce qu'on en a parlé comme d'un signe très concret d'un rapprochement entre l'Angola et l'Europe?
Alors, Trafigura, oui, en effet, c'est une entreprise qui a beaucoup d'activités en Suisse, mais qui est en fait basée à Singapour. Moi, je serais un peu plus mesurée dans le sens de faire une équivalence entre cette concession avec des multinationales et la stratégie européenne de Global Gateway.
D'accord. Pour vous, ce n'est pas la même chose. Là, on parle de multinationales. Ils ne sont pas, les entreprises en question ne sont pas nécessairement pilotées par l'Union européenne dans le cadre d'une stratégie européenne.
Non, absolument pas. Pour moi, ce sont des entreprises multinationales et une entreprise, son principal objectif, c'est de faire des profits. Et donc, si cette route est moins profitable pour les entreprises que celle qui existe actuellement, c'est possible qu'elle ne soit pas utilisée.
Les États-Unis, sous Joe Biden, avaient octroyé un prêt, plus de 550 millions de dollars pour moderniser les lignes et acheter des locomotives. Est-ce que ce prêt s'est concrétisé?
Alors, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allée sur place, alors que je ne suis pas vraiment au courant. Mais a priori, le premier, il y a eu un peu une cargaison symbolique de minerais qui a en effet été exporté de la mine de Tenge-Fugurume en RDC jusqu'à Lobito en 2018.
D'accord, donc il y a quand même déjà des mouvements. Cette ligne, elle est censée permettre donc à la fois un transport en 45 heures, on dit, des minerais depuis la RDC jusqu'à ce port de Lobito, mais aussi dans l'autre sens, l'acheminement de dynamite, de produits qui servent à l'extraction. On imagine déjà, et ça paraît tellement anachronique, mais non, que la production va augmenter en même temps que le transport. Il ne s'agit pas que de transporter les minerais, mais aussi d'accélérer la production en faisant parvenir donc tous ces produits pour l'extraction. En quoi ce projet est-il censé concurrencer la Chine?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est un projet géopolitique avant tout. Moi, sur la concurrence, encore une fois, avec la Chine, je serais plutôt mesurée, puisque donc actuellement, les chaînes logistiques, elles ont été sécurisées, elles ont été organisées vers les ports, notamment de l'Afrique du Sud, en premier lieu celui de Durban. Sachant que la Chine est aujourd'hui le principal acheteur du cuivre de ces régions-là. Et d'ailleurs, c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2008, contrairement à ce qu'a dit Madame von der Leyen dans l'extrait d'interview que vous avez passé en début d'émission. Et donc, moi, je suis un peu mesurée dans le sens où, étant donné que la Chine est le premier acheteur de cuivre et c'est aussi le premier transformateur, je me demande à quel point l'Union européenne pourra effectivement prendre sa place, quoi.
Prendre ce relais-là. L'Europe n'a pas les infrastructures industrielles nécessaires pour transformer ces minerais directement importés du continent africain. Enfin, en tout cas, on n'en est pas sûr, quoi. Il y a là encore, d'après vous, un effet d'annonce.
Oui, tout à fait.
En quoi ces pays concernés par ce corridor de Lobito, que ce soit la République démocratique du Congo, la Zambie, que vous connaissez particulièrement bien, Hélène Blaskiewicz, l'Angola, en quoi vont-ils ou peuvent-ils en profiter de ce corridor?
Alors pour moi ici, il y a une réponse un peu en deux échelles, parce qu'au niveau national, En effet, je pense que les pays que vous avez cités peuvent bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle route, puisque l'exportation des minerais pèse un poids extrêmement important dans leurs budgets respectifs. Donc, sécuriser une nouvelle route d'exportation, c'est toujours un point positif pour les budgets de ces États. Mais il y a aussi donc, l'échelle des populations qui, à mon avis... Encore une fois, un effet d'annonce. On l'entendait encore une fois dans l'extrait que vous avez passé. C'est cette histoire de corridor de développement. C'est la façon dont dont la promotion de ces corridors se fait actuellement en Afrique et puis depuis une vingtaine d'années. Dans les faits, c'est encore donc une logique extractiviste. Hein. Et encore faudrait-il que cette infrastructure soit accessible aux populations, ce qui, en l'état actuel des choses, n'est pas donné.
Le gouvernement angolais, par exemple, promet que ça permettra aux agriculteurs d'exporter leur production, mais beaucoup disent qu'au contraire, ils ne peuvent pas du tout le faire parce que le coût du transport est vraiment en dessous de tout ce qui pourrait se pratiquer jusqu'à présent. Les prix sont devenus intenables pour les agriculteurs et ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer pour un convoi de maïs autant que les entreprises qui font transporter du cuivre, par exemple. C'est ce que disait un agriculteur dans un long reportage du Monde paru récemment sur le corridor. Merci beaucoup, Hélène Blaskiewicz, d'avoir été avec nous pour parler du corridor de l'Obito. Vous êtes docteur en géographie et chercheuse postdoctorante au laboratoire Prodige CNRS, autrice de Toujours plus vite, logistique et capitalisme dans l'Afrique minière, aux éditions Le Manuscrit. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être une réaction à Martial Zebelinga à ce que disait Hélène Blaskiewicz, cette ligne de chemin de fer. Elle suit exactement ce qui a été construit il y a plus d'un siècle et donc relèverait des mêmes logiques.
Ah ben, je pense que c'est une, comment on dit, textbook illustration. Donc c'est vraiment un cas d'école d'extractivisme avec les très faibles probabilités de bénéfices aux populations locales. Pour qu'il y ait un changement concret, je pense qu'à terme, il faudra peut-être que les Africains travaillent à un moratoire sur l'exportation de certaines matières premières, y compris les matières premières stratégiques, et une exigence minimale de transformation locale avant exportation. Ça, au moins, ça pourra amener un tissu local à se constituer, ça pourra obliger quelque part, de façon un peu organique, à avoir des institutions locales, des infrastructures locales qui bénéficient aux populations locales. Mais si on reste dans ce modèle-là où on va faire de l'extraction, ou plus encore, parce que là, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que c'est peut-être une forme d'extraction par préemption. C'est peut-être juste pour empêcher la Chine, qui est l'adversaire stratégique, même si l'Occident ou les États-Unis et les firmes multinationales n'exploitent pas tout de suite ces ressources-là, ce serait un moyen en tout cas d'essayer de les bloquer et de faire en sorte que la Chine n'y ait pas accès. Donc, tel que c'est fait, je pense qu'il y a peu d'espoir pour qu'il y ait des résultats concrets. Par contre, la ressource intellectuelle des Africains et des jeunes aujourd'hui va dans le sens de cette transformation et peut-être de ce moratoire sur les exportations de brut.
Une dernière question, Martial Zebinger, n'a plus beaucoup de temps, mais dans l'émission d'hier consacrée à l'Inde, Christophe Jaffrelot rappelait que l'une des raisons pour lesquelles négocier avec Narendra Modi un accord de libre-échange avec l'Inde ne posait plus tellement de problèmes pour l'Europe, c'est que le centre de gravité a glissé vers la droite et l'extrême droite et que la convergence à l'œuvre entre l'UE et l'Inde pourrait reposer à terme sur des affinités idéologiques avec l'ultranationaliste Narendra Modi, autant que sur des intérêts commerciaux. Est-ce que cette nouvelle donne politique en Europe a déjà des effets sur la politique de l'Europe dans tout ce qui concerne ces discussions avec des institutions africaines, d'après vous ?
J'ai un doute sur cette question-là, parce que j'ai un doute sur les effets concrets. La situation, par exemple, démographique de l'Europe ne lui permet pas, en termes de politique concrète, ne lui permet pas, par exemple, d'être contre l'immigration, parce que aujourd'hui il y a un gros déficit. Si vous prenez des secteurs comme les nouvelles technologies de l'information, qu'on appelle ça, il y a un énorme déficit européen qui va pas être comblé par l'éducation à court terme. Donc il y aura de toute façon un appel à l'immigration. Donc c'est un thème porteur politiquement, mais en termes de politique concrète, c'est beaucoup moins évident qu'il y aura des effets. Par contre, il peut y avoir des effets sur les populations et les élites africaines.
Merci beaucoup, Martial Zebelinga, chercheur indépendant en économie et en sciences sociales. Je remercie beaucoup, pardon, et je m'en étouffe. Amandine Sabourin, qui était avec nous depuis Bruxelles, qui travaille comme analyste politique senior à ECDPM, un think tank européen spécialisé sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
127 millions d'électeurs appelés aux urnes demain au Bangladesh pour des législatives et un référendum qui cherche à asseoir la démocratie, Catherine.
Des élections nées du sang et des larmes, titre le quotidien bangladais The Daily Star, les premières depuis la chute de l'ex-première ministre Sheikh Hasina à l'été 2024 après un soulèvement de la jeunesse réprimé, on s'en souvient, dans le sang, au moins 1400 morts, rappelle la BBC. La nation retient son souffle, incertitude palpable dans chaque salon de thé et chaque foyer, décrit The Daily Star, dans l'attente du résultat des élections de demain, une incertitude qui donne tout son sens à la démocratie, souligne encore le quotidien bangladais. Mais l'ascension d'un parti suscite l'inquiétude. Les libertés des femmes sont menacées, alerte le Guardian, car le parti Jamaat et Islami, réprimé sous l'ère Hasina, pourrait bien obtenir un score historique. Les islamistes de ce parti prônent l'instauration de la charia au Bangladesh. Ils affirment qu'ils vont laisser la place aux jeunes dans leur gouvernement, rapporte The Daily Star, mais leur chef a déclaré sur Al Jazeera qu'une femme ne pourrait jamais diriger le parti, car ce serait contraire à l'islam. Ce chef du parti islamiste a par ailleurs nié l'existence du viol conjugal et il veut également réduire le temps de travail des femmes afin qu'elles puissent consacrer plus de temps à leur foyer. Le genre d'opinion que l'on entend en Iran et en Afghanistan s'insurge Zaïba, une étudiante bangladaise de 21 ans, interrogée par le Guardian lors d'une manifestation nocturne à Dhaka en début de semaine. Le peuple a versé son sang. Maintenant, nous voulons l'égalité, ont scandé ces manifestantes bangladaises dans la capitale Dhaka, alors qu'elles étaient à l'été 2024 en première ligne pour réclamer la démocratie dans leur pays. Leur sentiment de frustration s'est accru après que le tout nouveau Parti National des Citoyens, fondé par des leaders étudiants qui ont renversé la première ministre Hasina, ce parti a annoncé en décembre son ralliement aux islamistes de Jamaat et Islami pour les élections de demain. Une décision prise par quelques hommes au sommet du parti, précise le Guardian, sans consulter la base ni les femmes. Leurs politiques sont contraires aux aspirations des Bangladaises, insistent les manifestantes à Dhaka, bien loin des propos tenus notamment par Ghazi Nasrul Islam, l'un des candidats du parti islamiste dans le district de Satkhira, dans le sud-ouest du Bangladesh. Les femmes doivent porter des vêtements modestes et se couvrir la tête d'un voile, déclare le candidat islamiste à la journaliste de la BBC, assise face à lui, cheveux détachés. « Nous ne voulons pas que le corps de nos femmes soit exposé », ajoute Ghazi Nasrul Islam, et lorsqu'elles s'éloignent de chez elles, elles doivent être accompagnées d'un membre de leur famille, d'un proche parent, un principe qui s'applique non seulement aux musulmanes, dit-il, mais aussi aux femmes d'autres religions. « Il n'est pas bon pour une femme de se retrouver seule dans la rue de nos jours », affirme le candidat islamiste bangladais devant la caméra de la BBC. Un membre du Parti nationaliste du Bangladesh, parti historique, interrogé par BBC India, espère lui que la jeunesse bangladaise, la Gen Z, qui représente la moitié des électeurs du pays, voudra un souffle nouveau et moderne pour le Bangladesh et ses 170 millions d'habitants.
Enfin Catherine, c'est aujourd'hui que sort en salle le film Hurlevent, réalisé par Emerald Fennell.
Une adaptation ratée du roman d'Emily Brontë pour le Guardian. Le quotidien britannique s'inquiète de voir la terrifiante histoire d'amour et de vengeance entre Cathy et Heathcliff être ainsi portée à l'écran, en version romantique et érotisée, soi-disant de manière sulfureuse, tout aussi lourd et indigeste. Le merchandising, les à-côtés commerciaux du film, décrit le Guardian. Allez, vous reprendrez bien un bol de pudding aux graines de chia et aux fraises. C'est la douceur que promet le bol Kiss Me inspiré de Cathy, vendu dans les supermarchés aux États-Unis, rapporte le Guardian. La version pour Heathcliff, chocolat noisette, à la fois pour symboliser la passion dévorante et la noirceur de son âme, selon les arguments commerciaux cités par le Guardian. Il n'y a pas une, mais deux collections de lingerie inspirées du film, ajoute le journal britannique. Des produits dérivés qui font désormais partie du modèle économique des films à gros budget, tels que Barbie et Wicked ces dernières années, analyse le Guardian. Et le quotidien britannique de gauche y voit une manifestation du désespoir consumé qui n'a rien à voir avec l'obsession toxique décrite dans le roman d'Emily Brontë. Et pour moi, l'une des seules adaptations qui vaille, c'est En musique avec Kate Bush. Woo Wuthering Heights de Kate Bush, inspiré du roman d'Emily Brontë, bien loin de l'indigeste adaptation ciné Hurlevent qui sort donc aujourd'hui. Il en sera également question dans les midis de France Culture avec Marie Laborie.
Too Hot to Greedy, bah c'est toujours un bonheur de l'écouter. Est-ce que le film est indigeste, lui? Bah on en saura plus aussi dans les Midis de Culture avec Marie Laborie dans un instant.